Seigneur, merci de tout cœur pour ce matin et pour la parole et pour le texte que nous voulons aborder ce matin dans 1 Timothée 2. Seigneur, c'est ta parole, nous ne voulons qu'être honnêtes avec elle, la comprendre, comprendre la pensée qui est la tienne, Seigneur. Et je te supplie et je te demande de nous aligner à ta pensée, Seigneur, et pas le contraire. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bah écoutez, comme vous le savez, vous qui étiez ici dimanche dernier, nous abordons aujourd'hui le deuxième message dans une série tirée de 1 Timothée 2 que j'ai intitulé « Le rôle de la femme dans l'Église ». Le rôle de la femme dans l'Église. Pourquoi ce thème ? Simplement parce que nous étudions les livres de la Bible de manière systématique et chronologique et donc nous arrivons sur ce texte et donc nous l'abordons. Alors, conscient que le sujet prête à confusion aujourd'hui, m'a semblé bon la semaine dernière de commencer en montrant, Bible en main, l'évolution de la perception de la femme dans l'histoire, mais aussi dans la Bible. Nous avons commencé en regardant brièvement quel fut le statut de la femme dans l'Antiquité, dans la Grèce, dans la Rome ancienne bien sûr, dans le judaïsme et même de nos jours. Puis nous avons examiné la dignité de la femme avant la chute. Donc avant Genèse 3, nous avons examiné la création de l'homme et de la femme et constaté que Dieu a créé l'homme et la femme égaux humainement et spirituellement, mais différents dans leur rôle. Cela est une évidence que l'homme et la femme ont des rôles biologiques différents. Eh bien, il en est même pour le rôle vis-à-vis de l'un de l'autre. Dieu a créé l'homme pour mener la femme et la femme pour être une aide pour l'homme. Et avant la notion du péché, il n'y avait rien de dégradant à cela. Ils étaient les deux heureux et satisfaits de leur rôle respectif. Et puis nous avons pris quelques moments pour regarder ce qui s'est passé à la chute et après la chute. Et lorsque l'homme et la femme ont péché, Dieu les a maudits dans Genèse 3:16. Et nous avons vu comment la malédiction a renversé les rôles de l'homme et de la femme. Et à partir de ce moment-là dans l'histoire, la femme a voulu usurper l'autorité de son mari. Et le mari, lui, s'est donc rebellé à ce désir et a écrasé sa femme, souvent de manière terrible. Et nous connaissons, bien sûr, beaucoup d'exemples de ce genre. Les deux ont tort. Quelle est donc la solution ? Eh bien, ce n'est qu'en recevant de Dieu la solution pour le péché qui avait été annoncée dans l'Ancien Testament et accomplie dans le Nouveau Testament, le salut en Jésus-Christ, que l'homme et la femme peuvent retrouver et comprendre le pourquoi de leur création et retrouver avec bonheur et satisfaction leur rôle respectif épanoui en Christ. Dans le mariage, le résultat est flagrant, du moins il devrait l'être. Le mari, en Christ, apprend à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'a sacrifié pour elle, Éphésiens 5, 25. Et la femme comprend ce que veut dire aider son mari et se soumettre à lui dans la joie du Seigneur, Éphésiens 5, 22. Les deux sont pleinement satisfaits et sont dotés d'une dignité dans le Seigneur. Et il n'y a rien de dégradant à cela. Eh bien, ce qui se passe au niveau familial se passe également au niveau de l'Église. Dieu a prescrit que dans l'Église, le rôle de l'homme et de la femme soit différent. Et c'est le but de notre texte de ce matin, comprendre quel est le rôle prescrit pour la femme au sein d'une église. Donc on va lire le texte, 1 Timothée 2, et j'aimerais lire à partir du verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors il faut juste, avant de démarrer, comprendre le contexte très brièvement. Alors on l'a déjà vu, puisqu'on a déjà analysé le premier chapitre dans le passé. Il faut bien comprendre qu'il y avait une erreur doctrinale à Éphèse. Dans le verset 3, il le dit, « Je te rappelle l'exhortation du chapitre 1, que je t'adresse à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Il y avait un trouble doctrinal à Éphèse. C'est une des raisons que Paul a envoyé Timothée pour mettre de l'ordre. Le verset 4 nous dit que les erreurs provoquaient des discussions, des discours, des disputes dans l'Église. Le verset 7 nous dit que certains voulaient être même docteurs, mais ne savaient ou mais utilisaient mal la loi. Ils le faisaient mal, ils ne comprenaient même pas quel était le but de la loi. Nous avons vu aussi dans les versets 19 et 20 que cette fausse doctrine avait fait des ravages dans l'Église. Il y avait même deux hommes, Hyménée et Alexandre, qui ont été livrés à Satan pour le trouble qu'ils provoquaient. Alors, nous n'en savons pas beaucoup plus sur cette doctrine erronée, sauf pour quelques indices que nous interprétons avec prudence. Pas mal de commentateurs concluent qu'il est bien possible qu'au chapitre 2 de Timothée, que Paul aborde le problème du rôle de la femme dans l'Église, car justement, ces mêmes faux docteurs encourageraient l'égalitarisme entre les hommes et les femmes dans l'Église. Alors, ce n'est pas dit tel quel, mais cela semble être impliqué et semble coller avec le contexte du chapitre 1 et la suite. Quoi qu'il en est, Paul va expliquer quel est le rôle que la femme doit avoir dans l'Église. Et ce texte nous donne 5 traits. Alors, c'est comme ça que je résume le texte, d'accord? 5 traits qui devraient caractériser la femme dans l'Église. 5 traits. Alors, premièrement, le verset 9 nous dit qu'elle devrait avoir une apparence modeste. Une apparence modeste. Le verset 9 dit, je veux aussi que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se barre de bonnes œuvres comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors, intéressant, lorsque Paul écrit ce verset, de quel lieu spécifique parle-t-il? C'est très important ce que je vais dire, donc écoutez, c'est encore le contexte, d'accord? Au verset 8, Paul vient de dire ceci, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Donc, vis-à-vis des hommes et leur rôle qu'on a déjà vu, cela s'applique en tout lieu où les hommes prient, probablement une référence aux églises de maison où se réunissaient les chrétiens à Éphèse. Contexte, église. Le verset 9, on voit « Je veux aussi » Hosautos, qui s'applique de nouveau, qui applique le texte de nouveau au même contexte de lieu, mais cette fois au niveau des responsabilités des femmes. Donc on a l'impression qu'il décrit les responsabilités des hommes et des femmes dans ce même lieu rattaché à l'église où les hommes prient. Et regardez au verset 11, il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Il élargit le contexte ici, et décrit le rôle de la femme spécifiquement au niveau de l'écoute, et au verset 12, de l'enseignement. Donc, ces versets, maintenant, s'appliquent là où l'enseignement de la parole de Dieu est dispensé, et là où elle est écoutée. Contexte, église, et bien sûr, les réunions qui en découlent. Chapitre 3, verset 15, regardez, très intéressant. Là, Paul nous donne le but, je dirais géographique si on veut, ou disons le but de ce qu'il est en train de dire dans tout le livre. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Là c'est clair. Là il est en train de dire, écoute, je te donne ces directives Timothée pour que tu saches comment se conduire dans la maison de Dieu, dans l'Église. De nouveau, le contexte est dans l'Église. Dans 1 Timothée 5, 9, nous avons qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans. C'est intéressant, lorsqu'il parle de veuve, qui doit être manière peut-être aidée par l'Église, il parle des veuves qui doivent être inscrites sur le rôle de quoi ? De l'Église de nouveau, contexte et Église. Et encore, le verset 16, si quelqu'un fidèle, homme ou femme, a des veuves et qu'elle les assiste et que l'Église n'en soit point chargée. Encore, contexte, Église. Église. Et dans un texte parallèle, 1 Corinthiens 15, 34, il est parlé dans les assemblées. Alors, pourquoi est-ce que cela est important ? Parce que les instructions de Paul s'appliquent certes au culte. Certes. Mais moi, je crois au-delà du culte. Ce texte s'applique à toutes les réunions et activités de l'Église qui en font partie. Et ceci est important. Parce que certains voudraient conclure par rapport à ce débat que ces versets s'appliquent uniquement au culte, mais pas aux réunions moindres parallèles. Et je pense que textuellement et contextuellement parlant, il n'est pas possible de faire cette conclusion. Je pense que ça s'applique à toute l'Église et les réunions qui en découlent. Alors regardez encore le verset 9. Bon là, on va vraiment prendre notre temps, hein. On va décortiquer, ça va être assez technique, mais ce sont des versets importants, donc on va les prendre et on va vraiment les étudier. Je pense que ça va être, du moins j'espère, très intéressant. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alors, je veux. Je veux, c'est ce que Paul dit. Alors en fait, c'est intéressant, il n'apparaît pas dans le verbe, dans le verset 9, ce petit verbe. Il apparaît au verset 8, mais ce qui apparaît au verset 9, dans le grec, c'est le « aussi ». Donc on sait qu'il fait un lien, d'accord, entre le verset 8 et le verset 9. Et le verset 8 exprime, comme on le verra aussi au verset 12, exprime une demande apostolique dans un langage de désir personnel. On en reparlera, d'accord ? Donc, je veux aussi, il est en train de dire que de la même manière que les hommes au verset 8 doivent se conduire d'une manière appropriée dans les réunions publiques, les femmes aussi, verset 9, doivent se comporter de manière appropriée. Pas compliqué, c'est-à-dire que nous avons chacun, hommes et femmes, une conduite appropriée à avoir dans le contexte de l'Église. Je veux aussi que les femmes, alors là, le mot femme, c'est le mot femme, d'accord ? Femme, d'accord ? Femme, il s'agit bien de femmes en opposition avec hommes. Elles doivent être vêtues, le mot parle de vêtements, donc le texte est très précis et très fidèle. D'une manière décente, alors ça c'est intéressant, le mot décent ici c'est le mot cosmos. Alors, c'est quoi le cosmos ? C'est le monde, hein, le cosmos. Cosmos, c'est le monde. Et en fait, le mot vraiment veut dire ordonné. Pourquoi est-ce qu'on utilise le mot cosmos pour décrire le monde ? Parce que le monde, et les scientifiques nous le disent, tout tourne d'une manière très ordonnée. Hein. La Lune, la Terre, les planètes, tout tourne, les saisons, c'est très ordonné. Et c'est dans ce sens-là que le mot est utilisé pour parler de quelque chose d'ordonné, cosmos. C'est intéressant que nous dérivons aussi le mot cosmétique. C'est intéressant, non ? Cosmétique, qui veut dire orner, décorer, embellir, mettre en ordre une femme qui met des produits cosmétiques, met de l'ordre sur un visage qui peut-être sinon ne serait pas en ordre, hein, si on peut le dire ainsi. Bon, aujourd'hui, je devrais préciser, les hommes et les femmes qui mettent des cosmétiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a le tout, vous savez. Mais en fait, c'est pas faux de dire ça. C'est intéressant que dans 1 Timothée 3, 2, parlant d'anciens, il est aussi dit que la vie d'un ancien doit être cosmos. Elle doit aussi être ordonnée. Un ancien ne peut pas avoir une vie complètement décousue ou chaotique. Et tel en est-il aussi pour une femme. Moi, j'ai habité à Paris pendant pas mal d'années, 10 ans, et quand je prenais le métro, j'étais étonné de voir combien d'hommes ne se peignaient pas les cheveux et avaient une apparence très non cosmétique. C'est incroyable. Mais ici, dans le contexte, une femme devrait être cosmétiquement en ordre. D'accord ? Elle devrait être... En fait, ce mot parle vraiment d'une modestie. Sa vie, son look est en ordre. Alors le but ici, c'est qu'une femme, lorsqu'elle vient pour... Attention, c'est quoi le contexte ? Lorsqu'elle vient participer dans le cadre de l'Église. Elle ne doit pas venir tout débrailler et tout délaisser. Elle doit venir d'une manière ordonnée, d'une manière appropriée, d'une manière décente, dans son vêtement, pour adorer le Seigneur. Elle ne doit pas avoir une apparence chaotique. C'est ce que le texte dit. Hein. J'essaie d'être fidèle au texte, vraiment fidèle. Clac, 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 d'accord ? Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur. Alors là, il parle maintenant de l'attitude. Il y a le vêtement, maintenant il y a l'attitude. Et c'est intéressant que le même mot apparaît cosmos dans quelques secondes, d'accord ? Pudeur, le gêne intérieur face à un acte immoral. C'est le sentiment de ne jamais vouloir attirer une attention immorale à soi-même par son vêtement ou par son apparence. D'accord ? On ne veut jamais attirer quelque chose de malsain par son apparence. Donc, elle doit avoir pudeur et modestie. Ce qui est simple, faste, sans éclat, ce qui n'attire pas l'attention. Et ajouter à la vertu d'une femme, c'est vraiment l'idée de décence ou chasteté. Platon a utilisé ce mot pour décrire celui ou celle qui pouvait contrôler ses passions corporelles et ses appétits. Paul dit donc que si une femme est modeste d'esprit, cela se verra dans la manière qu'elle s'habille, de manière ordonnée. C'est quoi le point à souligner ici ? Eh bien, de nouveau, le contexte est donc l'Église et les réunions qui en font partie. Lorsqu'une femme vient à l'Église, quelle que soit la réunion, elle vient avec un but. C'est quoi ce but ? D'adorer le Seigneur. C'est ça le but. On vient adorer le Seigneur. Et donc, elle se prépare pour ce moment, dans son attitude, qui se reflétera dans son habillement, ainsi que son apparence générale. Elle s'habille de manière décente, ordonnée, avec pudeur et modestie. Elle est équilibrée. Elle n'est pas d'un côté défaite et débraillée, délaissée au point où cela attire l'attention, mais elle ne s'habille pas non plus d'une telle manière luxueuse ou un tel luxe et avant-garde que cela aussi attire l'attention. Il y a un juste milieu quelque part, parce que c'est le but. On vient ici pour adorer le Seigneur. Et ensuite, deuxième partie du verset 9, qu'elle ne doit pas se parer ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ha ! Alors ça, c'est intéressant, vous ne trouvez pas ? Je connais votre question parce que je vais la poser, j'ai la même. Est-ce que cela veut dire qu'une femme ne peut jamais venir à une réunion d'église avec des tresses, avec de l'or, avec des perles ou avec des habits somptueux ? Ces choses sont-elles interdites ? Alors je vois toutes sortes de femmes maintenant qui... Non. Écoutez, il faut bien comprendre le contexte. Ces choses, à l'époque, faisaient partie des pratiques qui semaient la confusion dans l'Église. J'explique. Il faut comprendre que la manière principale que les femmes, à l'époque, exposaient leur richesse et leur extravagance était, premièrement, un peu comme aujourd'hui, on pourrait le dire aussi, en portant des habits somptueux, mais deuxièmement, en portant des coiffures extraordinaires et surtout en se faisant d'immenses chignons tressés remplis de bijoux. Barclay, historien, a dit à ce sujet, dans la société grecque, il y avait des femmes dont la vie entière consistait à faire leurs cheveux en chignons, les tressant afin d'y fixer de l'or, des perles, des bijoux de toutes sortes. À Rome, Pline l'Ancien décrit une femme, Lollia Paulina, l'épouse de l'empereur Caligula, dont la chevelure matrimoniale a coûté plusieurs dizaines de milliers de livres sterling. Par ces chevelures extravagantes et extraordinaires, les femmes empilaient et vantaient leur fortune sur leur tête. Alors voyez, autrefois on portait les bijoux dans les cheveux. Aujourd'hui, tout le monde le sait, les choses ont changé. On ne porte plus les bijoux sur les cheveux, mais on les porte maintenant sur la langue, sur les sourcils, sur le nombril ou carrément sur les orteils. Les choses ont vraiment changé, ne vous trouvez-vous pas ? Mais oui. Non, le but ici, c'est quoi ? Imaginez que vous êtes à l'époque. Vous venez au culte éphésien. D'accord ? Et là, vous vous asseyez, comme vous vous asseyez aujourd'hui, juste derrière une dame avec un immense chignon rempli de perles, de bijoux, de diamants, d'or. Et là, vous essayez de vous concentrer sur le culte. Et la seule manière de voir le prédicateur ou le groupe de louanges, vous devez tourner à gauche, d'un côté du chignon, à droite, de l'autre côté du chignon. Franchement, qu'est-ce que vous allez faire pendant ce culte? Vous allez commencer à compter les perles, les diamants, l'or. Vous allez vous dire, tiens, il coûte combien ce chignon finalement? Et vous allez être complètement distrait du but du culte. C'est pas faux en fait ce que je suis en train de dire. C'est vraiment là le problème ici. C'était pour le culte inapproprié. Et c'est pareil pour les habits. Une robe d'une femme riche pouvait coûter jusqu'à 800 deniers, sachant que le salaire journalier d'un ouvrier type était d'un denier. Moi, je pensais aux robes. Vous savez, des fois, il y a à la télé, on voit les défilés Chanel et autres. Il y a ces robes, mais incroyablement extravagantes. Imaginez que quelqu'un, un dimanche matin, rentre ici dans l'église avec une ces robes Chanel qui coûtent des je sais pas moi des centaines de milliers, je sais pas combien ça coûte ces robes, des robes de soir, et qu'elle rentre là, et puis nous est-ce que vous croyez que ça créerait une petite distraction avec des talons à 40 centimètres de haut? Ça aussi c'est très très à la mode aujourd'hui, mais bien sûr ça créerait un trouble, ça nous gênerait. Alors, bien sûr, ceci pose une deuxième question. Est-ce que c'est un mal pour une femme de porter des beaux habits? Non. Ce n'est pas un mal. Dans Proverbe 31-21, parlant de la femme vertueuse, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi, elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Elle fait des chemises, elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Au moins, cette femme-là aimait la qualité. Elle pourvoyait une qualité vestimentaire pour sa famille. Alors, autre question, est-ce que c'est un mal pour une femme de porter des bijoux? D'accord? Moi, je ne pense pas. Si vous regardez dans, par exemple, le Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 10, là, c'est Salomon qui parle de cette relation avec lui et son épouse. Dans Cantique des Cantiques 1, 10, « Tes joues sont belles au milieu des cueillets. Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. » Tandis que le roi est dans son entourage. Non, ce n'était pas ce verset-là. Oui, c'était le verset 11. « Nous te ferons des colliers d'or avec des pointes d'argent. » Chapitre 4, verset 9. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. On peut dire que la fiancée ou la femme de Salomon en portait. Elle portait des bijoux et lui appréciait le fait qu'elle portait ses bijoux. Nous voyons aussi dans Ézéchiel 16, assez intéressant. Dieu décrit son amour pour Jérusalem, il est dit dans Ézéchiel 16, 8. Je passerai près de toi, je regarderai, voici, son temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le plan de ma robe et couvris ta nudité. Je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur à l'Éternel, et tu fus à moi. Donc c'est une sorte de déclaration d'amour, n'est-ce pas, de Dieu, de la part de Dieu. Je te lavais dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je toignis avec de l'huile. Je te donnais des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Et je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu feras paré d'or, tu seras paré d'or et d'argent. Et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et de l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. C'est intéressant que Dieu décrit son amour pour Jérusalem et il utilise un langage qui décrit qu'il apprécie sa beauté et ses bijoux. Donc c'est dur de penser que Dieu ferait une telle description s'il était franchement contre les bijoux et ce genre de choses. Voyez, quel est le problème ici? Le problème, c'est lorsqu'une femme utilise ses bijoux et ses habits pour afficher sa richesse et distraire les regards, et surtout pendant les activités de l'Église où l'on est censé adorer Dieu. C'est ça le vrai problème. Est-ce que c'est un mal, à d'autres occasions, de se faire belle? Non, pour un mariage, des choses comme ça, bien sûr que non. Pour son mari, de se faire belle, c'est pas un mal. Au contraire, c'est souhaité, bien sûr. Mais lorsqu'on vient adorer Dieu, on ne veut pas attirer l'ascension. C'est l'excès ou la sensualité que ces choses peuvent suggérer et qu'ici Paul interdit. Jean Chrysostome a décrit ces choses comme ceci. De quelle parure veut-il parler ? D'une toilette honorable, convenable, exemple de superfluité ? Car c'est ainsi qu'elles observent la loi de la réserve. Quoi donc ? Vous venez prier Dieu et vous vous couvrez de bijoux et de frissures. Allez-vous donc danser ? Vous rendez-vous donc à des noces ? C'est là que les bijoux, les frissures, les riches vêtements ont leur place. Maintenant, il n'en est nul besoin. Vous êtes venus pour supplier, pour demander le pardon de vos fautes, la miséricorde pour vos offenses, pour fléchir votre maître par vos prières. Pourquoi donc vous parez ainsi ? C'est intéressant que même Chrysostome, à l'époque, ne pensait que ce n'était pas un mal de porter des bijoux, des beaux vêtements à des instances particulières. Mais ce n'est pas le but du culte. Et dans 1 Pierre 3, là il parle aux femmes qui ont des maris non-croyants. Comment gagner ces maris non-croyants au Seigneur ? C'est intéressant ce qu'il dit. 1 Pierre 3, 1, « Femmes, soyez de même soumises à votre mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Il dit à une femme, « Écoutez, mesdames, vous avez un mari qui n'est pas chrétien ? N'essayez pas de gagner votre mari en vous mettant des couches supplémentaires de maquillage ou de bijoux. Alors, ce n'est pas un mal de vouloir plaire physiquement à votre mari, mais la manière qu'on gagne un mari au Seigneur, c'est quoi ? C'est par votre vie, c'est par le cœur. Le cœur. Le cœur. Donc, quel est le rôle, le premier ou la première caractéristique d'une femme dans l'Église ? Une apparence modeste. Et là, je réalise, je ne sais pas du tout comment on va faire pour finir aujourd'hui, donc on finira la semaine prochaine. Mais là, je continue, d'accord ? On continue, mais là, de toute façon, c'est super. On n'est pas pressé, n'est-ce pas ? Deuxième trait qui devrait caractériser une femme à l'Église. Premièrement, une apparence modeste. Deuxièmement, une activité exemplaire. Une activité exemplaire. 1 Timothée 2 et le verset 10. Mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Le but de ce verset est celui-ci. La réelle valeur d'une femme ne se voit pas par le biais de ses vêtements ou de ses bijoux, mais au travers de ses bonnes œuvres. Vous connaîtrez l'arbre par son fruit, de sa vie et de ses bonnes œuvres. Vous reconnaîtrez le vrai caractère d'une femme, pas par ce qu'elle porte, mais par ce qu'elle fait. Voyez-vous, la parure intérieure d'une femme rend une femme réellement attrayante. C'est ça, vraiment, l'attrait d'une femme. Ce n'est pas ses bijoux éclatants, ni son grand chignon. Non, mais une démonstration de ses vertus chrétiennes. Lorsque Paul décrit Phébé dans Romains 16, il dit « Je vous recommande » Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancheré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé à plusieurs et moi-même. » Il dit, regardez, c'est une femme de qualité parce qu'elle a aidé. Elle m'a aidé moi, elle a aidé d'autres personnes. Dans Acte 9 aussi, nous avons la description de Dorcas, bien connue. Au verset 39, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pour décrire la qualité de cette femme, on lui a montré quoi ? On lui a montré tout ce qu'elle a fait. Tout ce qu'elle a fait pour aider les autres. Alors, quelle est la conclusion ici ? Mesdames, La Bible vous appelle à vous vêtir de bon goût lorsque vous participez aux réunions de l'Église, mais jamais de façon qui pourrait être une distraction pour ceux qui sont là pour adorer Dieu. Que votre parure reflète plutôt votre relation avec le Seigneur et que vous soyez vraiment connu pour vos bonnes œuvres, pour votre service au Seigneur, pour les saints qui sont dans cette Église. Alors, cela n'interdit pas de mettre de beaux vêtements, ni des bijoux, ni du maquillage, mais faites-le avec tact, sans désir d'attirer l'attention, ni de vouloir distraire le regard. Il y a un juste milieu. Bien sûr, ça s'applique aux hommes aussi, hein, dans le sens que nous aussi, on pourrait s'habiller pour distraire. Ce n'est pas le but. On est venu, on vient ici pour adorer le Seigneur. Donc, 1, une apparence modeste, 2, une activité exemplaire, 3, une écoute attentive. Écoute attentive. Regardez le verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Alors, prenons le verset et voyons ce qu'il dit. Femme. Le mot veut dire femme, d'accord ? En contraste avec homme. Qu'elle écoute l'instruction. Le mot instruction, c'est le mot mathétès. Apprendre par instruction, c'est l'équivalent du mot disciple ou encore mieux apprenti. Paul dit ici que le rôle principal de la femme dans l'Église, lorsque les hommes sont présents, contexte, selon le verset 12, on y reviendra, est d'écouter et apprendre l'instruction dispensée et en silence. Il faut noter que cet ordre n'était pas perçu comme étant dégradant pour les femmes à l'époque. C'est très important, d'accord ? Parce qu'aujourd'hui, on peut lire ça, on se dit « ça paraît dégradant ». Non, c'était pas dégradant. Pourquoi est-ce que c'était pas dégradant à l'époque ? C'était en fait encourageant. Pourquoi est-ce que c'était encourageant ? Parce qu'il faut, comme on l'a dit la semaine dernière, savoir que les femmes à l'époque n'étaient pas encouragées à apprendre. Les Juifs disaient qu'elles avaient la moitié de la capacité mentale des hommes. Mais ça, c'est faux, on le sait très bien. Voyez-vous, le christianisme n'a fait que de hausser la dignité de la femme, hausser le lot de la femme dans le monde. Donc, elle doit écouter l'instruction en silence. Alors, comment interpréter ce mot « silence » ? Alors, dans Actes 22, 2, il parle de silence, silence. Et dans 2 Thessaloniciens 3, 12, plutôt une attitude paisible. Alors, est-ce que c'est la paisibilité ou est-ce que c'est le silence ? Alors, il faut prendre le contexte. Le contexte précédent, c'est l'instruction que reçoit la femme. Et ce qui suit, c'est l'enseignement. Donc, il parle bien de silence en opposition avec l'enseignement. Il y a un contraste clair. Le mot silence apparaît encore deux fois, au verset 11 et au verset 12, que la femme écoute l'instruction, enfin deux fois en tout, en silence avec une entière soumission. Et au verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc, c'est un petit regard sandwich. Il y a le mot silence, l'exhortation, silence. Le silence dont doit être dotée une femme est bien dans le contexte d'une réunion d'église et dans la présence d'hommes. Lorsque dans une réunion d'église, les hommes et les femmes se réunissent ensemble, alors dans ce cas-là, la femme est appelée à écouter l'instruction en silence. C'est ce que le texte dit. Le contexte plus large nous aide aussi à comprendre le sens de ce terme, car dans 1 Corinthiens 14, 34, un verset parallèle qu'on va aussi regarder la semaine prochaine plus en détail, mais je vous le lis, 1 Corinthiens 14, 34, que la femme se taise dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise, comme le dit aussi la loi. Encore, là, le mot veut bien dire silence. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que cela doit être comme cela ? Eh bien, certainement que certaines femmes avaient adopté les habitudes de disputation ou de contestation de l'autorité et qui étaient si communs chez les faux docteurs, elles devaient apprendre à recevoir sans critique l'enseignement des responsables nommés tels quels dans l'Église et de se soumettre à eux. Alors, question. Est-ce que cela veut dire qu'une femme ne peut rien dire, même pas ouvrir la bouche dans une telle réunion ? C'est pas possible, j'ai entendu, c'est ça ? D'accord. Alors, en effet, la réponse est non. Non, le verset, dans un contexte précis, de nouveau, on l'a dit, dans l'Église, Chapitre 3, verset 15, dans le contexte d'une réunion en présence d'hommes. Dans 1 Corinthiens 11, 4 à 5, on voit qu'une femme a le droit de prier dans la présence des hommes. Donc cet ordre est à comprendre spécifiquement dans le contexte d'une église et au niveau de l'enseignement et de l'autorité sur les hommes, comme le dit le verset 12 que nous allons aborder dans quelques instants. Alors il continue, il dit « dans une entière soumission », verset 11, hein, « que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission ». Alors c'est très intéressant le mot là pour soumission, c'est un mot qui veut dire se ranger ou s'aligner dessous. Un entier alignement, un entier rangement si on veut, et la soumission de la femme dans ce contexte doit être entière et elle doit se percevoir comme une apprenante ou comme un apprenti. C'est un terme militaire, écoutez bien, qui décrit un ordre, pas une nature inférieure d'une chose. La femme n'est en rien inférieure à l'homme dans sa nature, ni spirituellement. Non, nous l'avons vu dimanche dernier, la femme est égale à l'homme en tant qu'être humain, est spirituellement devant Dieu, mais l'homme et la femme ont des rôles différents. Comme j'ai déjà dit, ça on le voit biologiquement, c'est évident, on est quand même différent biologiquement, d'accord? Donc là, il n'y a pas de problème. On le voit bien au niveau du mariage, où l'homme et la femme aussi ont des rôles différents. Éphésiens 5, on l'a déjà abordé. Eh bien, séparés dans l'Église. L'homme et la femme ont des rôles différents à jouer. Il n'y a rien de dégradant, même si certains veulent nous le faire croire. C'est intéressant, un petit verset dans 1 Corinthiens 11, par rapport à cette idée de soumission, qui passe si mal de nos jours. Vous savez qu'il y a, dans la Trinité, il y a soumission. Dans 1 Corinthiens 11, 3, il est dit ceci. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et écoutez bien maintenant, et que Dieu est le chef de Christ. » Alors ça c'est très intéressant parce que nous savons que Dieu et Christ et le Saint-Esprit font partie de la Trinité. Jésus-Christ est Dieu, il est 100% Dieu. Ils sont exactement de la même nature. Alors est-ce que la soumission de Christ au Père est dégradante? Mais non. Ils ont un rôle différent à jouer, c'est tout. Et c'est très important à le noter. C'est dans notre société qu'on se dit que, la soumission de la femme est dégradante. Ce n'est rien de dégradant, c'est un rôle différent à jouer. Et on le voit très bien au niveau de la Trinité. Dans Jacques 4, 7, il est dit que nous devons tous être soumis à Dieu. Dans Romains 13, 1, il est dit que nous devons tous être soumis aux autorités gouvernementales. Est-ce que c'est dégradant de se soumettre aux autorités? Non, c'est pas dégradant. C'est une bonne idée, sinon ça coûte cher, parce que les radars, ils sont vraiment chers. Il faut se soumettre aux autorités gouvernementales. Et dans Éphésiens 5, 21, les femmes se soumettent à leurs maris. Dans Éphésiens 6, 1, les enfants obéissent à leurs parents. Vous voyez, le monde est géré. Il faut de l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre, et c'est comme ça qu'il l'a géré. Donc le verset 11 est clair, dans le contexte de l'Église et des réunions en présence d'hommes, les femmes doivent écouter l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne sais pas comment le dire autrement que ce qui est marqué dans le texte. Écoutez, je vais faire le verset 12 encore, d'accord? Je fais le verset 12, puis ensuite on arrête. Donc je vais quelques minutes de plus, mais je crois qu'on va finir dans 5 minutes environ. Donc, 5 traits qui devraient caractériser les femmes dans l'Église. Premièrement, une apparence modeste. 2, une activité exemplaire. 3, une écoute attentive. 4, une humilité honorable. Une humilité honorable. Alors, regardez le verset 12. Il est vraiment intéressant. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Waouh. Alors, certaines personnes aimeraient interpréter ce verbe comme une note d'opinion personnelle de Paul. Personnellement, je ne permets pas. Est-ce qu'il serait en train de dire cela? Impliquant que d'autres que lui le permettraient. Hein, c'est une opinion personnelle. Alors, c'est un problème, cette interprétation. Parce que, il y a 3 instances où le mot est utilisé. Je ne permets pas dans le Nouveau Testament. Ici. Dans 1 Corinthiens 14, 34 que je viens de lire, où il est dit qu'il n'est pas permis de parler comme le dit aussi la loi. Donc, ce n'est pas que l'opinion de Paul, c'est l'opinion de la loi. Et là, il fait une référence vétérotestamentaire que les femmes ne doivent pas enseigner et prendre autorité sur l'homme, qui est de nouveau exprimé dans les versets 13 et 14 qu'on verra la semaine prochaine. Aussi, dans 1 Corinthiens 14, 37, il dit qu'il reconnaît ce que je dis, ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc, on sait que ce que Paul disait était une parole apostolique. Il l'exprimait parfois comme un souhait personnel, mais c'était toujours doté de l'autorité du Seigneur. Il parlait de la part de Dieu, c'était un commandement du Seigneur, 1 Corinthiens 14, 37, et le contexte est intéressant, c'est le même, sur le rôle de la femme dans l'Église. Alors pourquoi cette injonction ? Probablement parce qu'il y avait à l'Église d'Éphèse certaines femmes qui cherchaient à vouloir enseigner, à prendre l'autorité sur les hommes, et que Paul a dû intervenir ici pour leur demander de s'arrêter au nom du Seigneur, car cela n'était pas bienséant ni juste, car ce n'était pas le rôle prescrit dans l'Ancien Testament. Alors, quelles sont les interdictions, si je peux le dire ainsi ? Premièrement, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Le mot didasken, enseigner ou instruire, simplement, il parle, dans le contexte de l'Église, d'un contenu biblique religieux. D'accord ? C'est dans ce contexte-là. Alors, est-ce que c'est une interdiction générale ? Est-ce que ça veut dire que les femmes sont interdites de tout enseignement ou spécifiquement juste l'enseignement vis-à-vis des hommes ? Question importante. Qu'est-ce qu'il dit dans verset 12 ? Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Sur l'homme. Ce n'est pas une interdiction générale d'enseignement par une femme dans l'Église, puisque le mot est suivi d'un qualificatif sur l'homme. On y reviendra. Dans une seconde. Il est clair que l'injonction est limitée à l'enseignement auprès des hommes en assemblée publique. Il y a ce petit mot « ni ». Alors là, on fait de la grammaire. Alors suivez-moi, accrochez-vous, d'accord ? Accrochez-vous avec moi, d'accord ? Je sais que c'est midi, je sais qu'on va les manger, mais tenez-vous bien, regardez. Le petit mot « ni » est très important. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Alors, est-ce que c'est deux activités ou une activité ? Est-ce qu'il dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner » et « je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme », qui seraient deux activités, ou « je ne permets pas à la femme d'enseigner et de ce fait de prendre de l'autorité sur l'homme », une activité. Est-ce que c'est une ou deux activités ? Eh bien, dans le grec, le mot « homme », « andros », est clairement l'objet du verbe « autenten », qui est donc « avoir autorité », mais aussi l'objet du verbe « enseigner ». En grec, ça marche. Les deux sont construits ainsi. La construction est grammaticalement sans objection. Donc, on devrait lire « Je ne permets pas à la femme d'enseigner l'homme, virgule, ni à la femme de prendre autorité sur l'homme ». Il y a deux activités. Ces deux choses sont interdites. Et ça, on le voit, parce que certains veulent mettre ces deux choses ensemble, on le voit très bien dans Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Alors bien sûr, le contexte, c'est le salut. Dans notre salut, nous sommes tous égaux devant Dieu. Ça ne change pas le fait qu'on a des rôles différents, mais c'est le petit mot « ni » qui apparaît plusieurs fois. Chaque fois, c'est un contraste. Chaque fois, c'est deux choses indépendantes. Et donc, c'est pareil ici. Ce sont deux choses indépendantes. Donc, il y a deux interdictions ici. Et là, j'ai beaucoup d'informations grammaticales, mais je ne vais pas rentrer dedans. Ce serait vraiment trop compliqué. Alors, la femme ne doit pas enseigner les hommes dans le contexte de l'Église et les réunions qui en découlent, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Alors vous dites, mais alors John, dans quel contexte alors peut-elle enseigner ? Ah, ben il y a plein d'opportunités. Par exemple, elle peut enseigner d'autres femmes. Dans Tite 2:3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, donc elles doivent instruire, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Bien sûr, les femmes âgées ici sont appelées à enseigner, à instruire les jeunes femmes. Dans 2 Timothée 1, mais aussi l'exemple que des femmes enseignent des enfants. 2 Timothée 1:5, en gardant le souvenir de la foi sincère qui était en toi, qui habitait d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi aussi. Là, il y a ça, puis ensuite il y a chapitre 3, verset 14. Toi, demeure dans ces choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Là, on voit très bien que sa famille, la famille de Timothée, a enseigné, bien sûr, ses enfants. Timothée aussi, dans Actes 16, 1, a été enseigné. Regardez, enfin, je vais vous le lire. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Donc tout le contexte, c'est sa famille qui, les frères de Lystre et d'Icône, rendaient de lui un bon témoignage. Bref, on voit ici que des femmes, bien sûr, ont enseigné leurs enfants des enfants. Aussi, un petit exemple intéressant, dans Actes 18, il est dit ceci. Après cela, verset 1, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe, et là il trouvait un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné que tous les juifs de sortir de Rome, il se lia avec eux. Et nous avons verset 25 ensuite, ceci, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse, il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans les synagogues. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement les voies du Seigneur. Et là, nous avons un exemple d'un couple qui enseigne un homme, Apollos, pas dans l'assemblée de l'Église, mais en privé, hors du contexte de l'Église. C'est une conversation privée entre eux et lui. Tout à fait OK. C'est vraiment très spécifique ici, mes amis. C'est très spécifique au niveau de l'Église, dans les réunions officielles de l'Église qui sont liées à la vie de cette Église. Nous avons vu dans Corinthiens 11, aussi 3, que les femmes peuvent prier en présence d'hommes. Elles peuvent parfaitement avoir un don d'enseignement et même de leadership. Et alors, elle doit aussi ne pas prendre autorité sur l'homme, littéralement usurper l'autorité. Et là, c'est une terminologie fonctionnelle, pas d'un poste officiel ou de fonction. Il ne dit pas qu'une femme ne doit pas être ancienne, mais ça c'est évident parce qu'on le verra au chapitre 3, c'est pas possible qu'elle soit ancienne, mais qu'elle ne doit pas prendre autorité sur l'homme, c'est plus large qu'ancien. S'il avait dit ancien, alors on aurait pu conclure que la porte serait ouverte pour l'enseignement, mais pas ancien. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il parle de l'autorité en général. Il ne doit pas prendre autorité sur l'homme dans le contexte de l'Église locale. Alors, bien sûr, je me suis posé la question, ça veut dire quoi pratiquement, concrètement, dans la vie de notre Église? Une bonne question. C'est intéressant que Paul ne rentre pas dans un détail précis sur comment l'appliquer spécifiquement dans chaque Église. Moi, je crois qu'il y a un principe. Le principe est simple, une femme, dans le contexte de l'Église, ne devrait pas enseigner les hommes et ne devrait pas prendre autorité sur les hommes. Je pense que chaque Église, et je pense par le biais de ses anciens, doit analyser cela et voir comment l'appliquer dans le contexte de son Église. Parce que ce n'est pas prescrit spécifiquement comment l'appliquer. Alors vous pouvez poser la question, mais John, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi cette restriction? Pourquoi est-ce qu'une femme n'a pas le droit d'enseigner un homme dans une église locale? Et pourquoi est-ce que les femmes ne doivent pas prendre l'autorité sur les hommes dans l'église locale? Pourquoi, John? Il faut revenir dimanche prochain pour la réponse. Mais je vous donne quand même, je vous mets l'eau à la bouche. Très important ce que je vais dire. Il donne la réponse au verset 13 et 14. Il les donne, et je vais vous lire. Il dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. La première raison, c'est une raison créationnelle. Et deuxième raison, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de la transgression. Il y a deux raisons. Un, créationnelle. Deux, morale. Alors il faut bien comprendre ces versets, surtout le verset 15 après. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Si elle persévère avec modestie dans la foi et dans l'amour et dans la sainteté. Ça, on va regarder la semaine prochaine. Mais c'est très important de voir que les raisons de Paul ne sont pas culturelles. Elles sont créationnelles. Et ça, il faut bien comprendre. Parce que c'est vrai que ce qu'on est en train de voir là est très anticulturel aujourd'hui. Mais moi, et je pense vous aussi, mes amis, si vous êtes dans cette église, nous ne voulons qu'une chose. Vraiment, n'est-ce pas? Moi, écoutez, mon cœur, il est simple. Je veux vraiment être droit vis-à-vis de Dieu et sa parole. C'est tout ce qui m'intéresse. Et j'essaye de tout mon cœur de l'analyser avec droiture. Parce que je veux plaire à Dieu. Ce que les hommes pensent, ça m'est égal. Moi, je veux plaire à Dieu. Je crois que vous aussi. Amen. Alors, ensemble, essayons de comprendre ces choses et les mettre en pratique dans notre église locale. Amen. Oh Seigneur, merci de tout cœur. Quelle richesse est ta parole, Seigneur. J'ai l'impression qu'on n'a qu'effleuré ces versets. Mais Seigneur, ils semblent être si clairs, mais si troublants vis-à-vis de la culture dans laquelle on vit aujourd'hui. Oh Seigneur, je te prie de nous aider à comprendre quelle est ta volonté pour les hommes, pour les femmes, Seigneur, et que nous soyons pour le monde un tel éclat de différence que le monde soit totalement surpris et qu'il nous regarde et se dit mais c'est tellement différent chez vous, j'ai envie de connaître votre Dieu. Seigneur, voilà ce qu'on veut. Et nous te remercions de tout cœur pour toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.